Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Nicole Gibault.
Une chronique judiciaire.
Madame la juge.
On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
La rencontre, Gibault-Trisac.
Nicole, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, là, est-ce que toi, la publicité, ça te touche ou tu passes à côté, tu fermes les yeux, ça te dérange pas?
Ben, il y a des fois que je... Moi, quand c'est, il y a de l'humour, j'aime vraiment ça. Mais à part de ça, souvent, je le mets sur pause si je pense plus.
Dis pas ça, là. Oui, oui, on regarde la publicité attentivement.
Oui, oui, oui.
Puis dès qu'on en voit une, on va acheter le produit.
C'est vrai. Non, mais sérieusement, est-ce que tu penses que j'étais pour répondre quelque chose de pas honnête? Pas du tout.
Ben non, je le sais bien. Alors, le jury est séquestré au procès d'Éric Rondeau. Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Oui, bon, regarde, Éric Rondeau, c'est lui qui est accusé, puis on fait toujours le parallèle, puis on va en parler. Là, on fait toujours le parallèle avec la dame au canard en 2010, condamnée en 2014, sur l'autoroute 30. Lui, c'est sur...
Excuse-moi, je veux juste finir, Nicole, parce que la dame au canard sur l'autoroute 30 s'est arrêtée, blessée, passer le canard, puis c'était un monsieur en motocyclette avec sa fille, je me trompe pas?
Tout à fait, t'as tout à fait raison, sa fille, et effectivement, puis sa femme suivait dans un véhicule. Elle a pu l'éviter, mais pas malheureusement pas son mari et sa fille. Mm-hmm. Et oui, ils sont décédés sur l'autoroute 30. Lui, ici, il est évidemment... sont accusés de deux choses différentes. Lui est accusé de conduite dangereuse. Puis il y a une petite différence, là, avec... ben une petite différence importante en droit, avec la négligence criminelle causant la mort. Ici, Éric Rondeau... qui est accusé de conduite dangereuse, ben et il se promenait sur, il tirait une grande CRS 150, là, il tirait une longue remorque pour les pontons, le très mince là, pardon, et il a vu devant lui, il y avait rien, il y avait pas de personne qui circulait ni devant ni derrière au moment où il a constaté qu'il y avait une mère avec 6 bébés canards qui traversaient. Alors, il a ralenti, presque à 10 kilomètres, il circulait. C'est ça, les événements, parce que j'ai relu le contexte et les faits, là. Et il a vu cette mère-là traverser, puis là, bien évidemment, il voulait pas les écraser, mais c'était correct, il a arrêté dans sa voie à ce moment-là. Pour une raison qu'il a de la misère à lui-même à expliquer parce qu'il était bloqué, il dit que la courbe, évidemment, il l'a piégé là, dans les circonstances. Quand il a eu, il a vu la mère canard qui était rendue de l'autre côté, puis probablement presque tous les bébés canards, il en restait peut-être un, il s'est tassé vers la ligne médiane, mais là, tout ce qu'il avait en tête, c'est de mettre, puis il les avait mis d'ailleurs, ces lumières d'urgence, mm-hmm, pour éviter que les gens rentrent, parce que c'est solide, là, une remorque de métal comme ça pour un ponton. Mais tu sais, ils voyaient que c'était très dangereux comme situation. OK. Mais là, malheureusement, quelque chose s'est passé dans un mouvement, puis il comprend pas pourquoi, qu'en se tassant, il s'est rendu de l'autre côté de la ligne médiane, double, une ligne là qu'il pouvait pas traverser. Ça a été soulevé au procès. Ça a été soulevé même hier en question, parce que le jury délibère. C'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. Le jury délibère, il est séquestré, il n'entend rien, il ne peut pas écouter la radio, il ne peut pas lire les journaux, il ne peut pas rien faire. Fait qu'on peut se permettre de parler de cette cause-là puis de se sentir très, très à l'aise, pas de pas influencer ce jury-là. Mm-hmm. Alors, il est traversé de l'autre côté, puis... vraiment, en regardant toujours en arrière, la courbe l'aurait piégé, il allait pas vite. Il y a plusieurs choses, mais évidemment, le motocycliste qui arrivait très vite selon les circonstances, même s'il était un habitué de la moto, qui avait pris des cours, c'était un individu prudent, on en a fait la preuve normalement, il circulait dans une courbe très marquée qui, normalement, on aurait dû aller à 70 si ma lecture est bonne des faits. kilomètres maximum aurait dépassé avant cette courbe-là là, à 115-120. Fait qu'on ne sait pas à quelle vitesse. Mais, tu sais, les gens vont dire, mais c'est épouvantable, on ne fait pas le procès du motocycliste. Pauvre motocycliste. Puis c'est vrai, là. Il est décédé par une manœuvre. Mais là, on va voir si un criminel. Puis là,
non, mais excuse-moi, Nicole, là, excuse-moi, là, avec tout le respect, là, tu sais, le jeune est mort, tout respect, mais encore une fois, on parle de la vitesse. Là, t'es dans une courbe. T'es pas censé accélérer dans une courbe. Quand
tu sais
là, conduire.
La détermination de la courbe, de la vitesse du motocycliste dans la courbe, je pense qu'on peut peut-être l'estimer. Oui, peut-être qu'on peut dire qu'il allait trop vite, et ça a été soulevé par la défense, et oui, t'as raison, mais il y en a que ça insurge, puis à cause de la conséquence qui est la mort. Sauf que, en matière criminelle, il y a des conséquences très graves, puis je dis pas qu'il sera pas condamné, là, parce que c'est un jury, on verra comment ils vont décider, puis on saura jamais pourquoi, mais dans les directives que j'ai vues du juge, c'est assez clair que c'est vraiment l'ensemble de la preuve, toute la preuve, incluant, oui, la vitesse, mais c'est pas un facteur qu'il devait prendre individuellement en considération.
Non,
la vitesse du motocyclette, l'endroit, juste les canards, puis les ci, puis les ça. C'est l'ensemble de tout ça, parce qu'il n'y a pas d'intention, là. C'est pas là-dedans, on prouve pas une intention criminelle comme dans beaucoup
non,
d'autres.
Non, c'est ça. Sais-tu comment j'appellerais ça, moi? Puis ça n'a rien à voir avec le code criminel, mais le destin. C'est sacramouille, tu sais, c'est toujours pareil, tu pars 30 secondes plus tard ou 30 secondes plus tôt, puis tu meurs pas, là. Tu sais, c'est la synchronicité des événements.
Puis la différence, et je pense que ça a été plaidé, tout au moins j'en suis convaincue, que la différence avec la dame au canard en 2010 qui a été trouvée coupable de négligence criminelle et de conduite dangereuse, même si les gens en motocyclette, le père et la fille, allaient probablement beaucoup trop vite selon ce qu'on avait entendu, mais c'est parce qu'elle était sur une autoroute. Elle arrête dans la voie de gauche. Elle descend de son véhicule.
Oui.
Elle pose des gestes qui, selon l'ensemble de la preuve, c'était hors de raison. Puis si en matière de conduite dangereuse, il faut toujours penser qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est une conduite dangereuse? Première question, avec tous les éléments, la courbe, le ci, le ça, là, est-ce que c'était une conduite dangereuse? Un. Et deux, est-ce que c'est la conduite comme telle, c'est un écart marqué par rapport à tout conducteur dans les mêmes circonstances? Est-ce que... Puis lui a dit, effectivement, jamais dans 100 ans, je voulais écraser une famille. Voyons donc, canard, pas parce que je voulais tuer quelqu'un. Il n'y avait pas une décision à prendre, là, tuer quelqu'un ou bien donc...
Mais Nicole, le gars, tu viens de le dire, là, le gars, là, il veut même pas écraser des canards.
Non.
Pense pas qu'il veuille écraser un motocycliste non plus.
Non, mais malheureusement, quand on conduit, on doit dans... Tu sais, il y a plein d'éléments de conduite ici.
Je comprends.
Tu sais, est-ce qu'il y a... Bon, il faut que tu arrêtes complètement, mettre tes flasheux, puis même pas faire un mouvement pour se tasser vers la ligne médiane. Ce qui a impliqué ici, qu'il a traversé, sans même le savoir lui-même, dit-il, parce qu'il regardait dans ses rétroviseurs pour voir le trafic en arrière. Ouais. Fait que c'est sûr que des fois... On fait un mouvement avec la main ou quelque chose, puis on traverse l'autre côté, évidemment. Mais là, ça va être une décision extrêmement importante à rendre, puis on ne saura jamais pourquoi ils ont trouvé ou non l'individu coupable. Puis il faut que tous les éléments de l'infraction soient prouvés hors de tout doute raisonnable. Le juge l'a extrêmement bien expliqué dans ses directives.
Bon, l'ordre de libération tombé entre deux chaises,
ça, c'est effrayant.
Je comprends pas ça, c'est quoi?
Ben, c'est... On se souvient que le détenu, la personne qui avait été détenue à Noël, juste la veille de Noël, en fait, Nikos d'André Spring, c'est un jeune homme qui est malheureusement, très malheureusement mort à la suite d'une intervention physique des agents correctionnels. Oui, il y en a eu deux qui ont été mis à l'écart. Oui, il y a des enquêtes par-dessus enquêtes internes, externes, etc. On va tout regarder ça. Il y a des vidéos qui existent. Le problème, c'est que quand on parle de l'ordonnance de libération, ben ça, c'est évidemment, ça appartient au tribunal. Le tribunal l'a libéré. Il avait plaidé coupable le vendredi 23 décembre. La juge lui a dit, bon, très bien, voici, ça va être ça votre sentence, vous serez libéré. Ça s'appelle une ordonnance de libération. Mais pour qu'un centre de détention libère, ça leur prend des documents. Faut pas juste dire, OK, next, parce qu'il y a des gens qui ont été libérés qui auraient jamais dû être libérés parce qu'ils se sont trompés. Puis il y a des gens, malheureusement, comme ici, qui auraient dû être libérés le 23 parce qu'il est mort le 24. Mmh. Alors, il était illégalement détenu. Et d'ailleurs, je comprends qu'il y avait deux autres détenus dans la même situation. Heureusement, ces détenus sont toujours en vie, mais lui, il y a eu une altercation. Le problème, oui, il est là. C'est évident qu'il y a une enquête là-dessus, puis pourquoi, puis l'intervention des agents, puis comment, puis il a été trop brutalisé. Ça va tout être analysé. Mais quand une ordonnance de libération est rédigée, est envoyée par courriel, s'il avait été à la cour, s'il avait été au palais de justice, il sortait du palais de justice. Même si ça avait été la veille de Noël, longtemps dans l'après-midi. Il était au centre de détention, ça s'est fait par visioconférence. Il a envoyé un courriel. Il n'a pas été ouvert le courriel, apparemment, avant le 24. Mmh. Les gens étaient en congé, il n'y avait pas de personne. Tu sais, c'est encore une fois, comme tu disais tantôt, c'est quoi les chances que tout ça arrive en même temps, un 23 décembre? Malheureusement, cet individu est décédé. Le jeune de 24 années là, est mort.
Bon, et avant qu'on se quitte, Nicole, un mot sur ce Hells Angels?
Ah, lui, là, il veut rien savoir des libérations. Okay. Puis en plus, ce monsieur Giroux, 52 ans, est membre des Hells Angels. Ça, il s'affirme clair, net et précis. Là, il en est fier. Il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour avoir plaidé coupable à des accusations de gangstérisme et de trafic de stupéfiants. Bon, qu'est-ce qui arrive? Libération conditionnelle, on s'en parle souvent. Alors, c'est les libérations conditionnelles du Canada. La loi, ce n'est pas les tribunaux, c'est une loi à part. Mmh. Aux deux tiers, il y a automatiquement une libération. Oui, normalement, ils sont remis en liberté dans la société avec des conditions. Quand ils sont dangereux, quand ils sont ci, quand ils sont ça, exceptionnellement, on les envoie en maison de transition. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. On les envoie en maison de transition, puis on leur donne un paquet de conditions serrées à respecter. Ben lui, il veut rien savoir. C'est ce qu'il dit, là. Non, moi, je suis pas intéressé. Je n'ai pas le droit de m'envoyer en maison de transition. Je peux pas m'imposer ceci. C'est contre mes droits. C'est pas conforme à la loi. Et etc., etc., etc. Puis je suivrai pas, puis je respecterai pas selon ce qu'il dit. Mais est-ce que, bon, j'entendais des commentaires, puis c'est pas fou non plus, là. Est-ce qu'il a juste fait son tof, là? Tu sais, il y a des conséquences. Parce que oui, on a vu dernièrement, il a été libéré 3 fois dans un autre dossier, là. Mmh. Et ils le remettent tout le temps dedans, là. Fait que s'il veut jouer avec ça, là, c'est son choix. Ou bien donc, il va juste calmement écouter les directives. Et mais c'est parce qu'il y a des conditions, il veut pas remettre, il veut pas divulguer ses papiers financiers, ça, c'est une des conditions. Il veut rien savoir. Il veut pas... il a déjà possédé des armes à feu, etc. Il veut pas arrêter, évidemment, de se joindre à son groupe parce que c'est ses amis. Puis c'est un individu qui a quand même 14 manquements en 3 ans, là, bon, en milieu carcéral. Mais il veut pas. Mais, tu sais, bon, regarde, on verra. On va peut-être en parler, puis ils vont le retourner en dedans la semaine prochaine.
Ah, ben, on va suivre ça. Rapidement, avant qu'on se quitte, Nicole, ça vient de tomber. Simon Hull, la cour d'appel le condamne à 1 an de prison. Celui qui avait agressé sexuellement une amie, ben finalement, il s'en va.
Du tout. Merci de l'information. Puis en même temps, oui, on m'envoie la décision. Là, je vais l'ouvrir dans 2 secondes. On vient de me l'envoyer. Bon. Mais effectivement, je suis pas surprise du tout. Je vais aller lire ça. On s'en parle demain.
Certainement. Okay. Nicole, bonjour. Merci.
Bonjour.
À demain.
À demain. Salut. Bye.